France Musique. Musicopolis. Jamais sans musique, le siège et la Commune de Paris. Chapitre 5, le mois de mai, mois des cerises. L'historien, nous dit la revue et gazette musicale, devra constater que le Paris de la Commune eut ses théâtres, ses concerts, ses orchestres, tant cette plante vivace de l'art lyrique et dramatique enfonce ses racines au plus profond des masses et brave ainsi les plus violents orages. En effet, sans prétendre au titre d'historienne, je constate, en épluchant les documents d'époque, à quel point la musique est présente. Ce n'est pas toujours celle qu'on attend. Il semble bien que celle qu'on entend le plus à côté des chansons est celle des bataillons de la garde nationale. Les journaux de mars, avril et mai 1871 nous font un récit sonore de la Commune. Le 18 mars, par exemple, la foule obstrue les rues. On dit que des troupes arrivent. On aperçoit effectivement un bataillon qui s'avance, musique en tête. C'est un bataillon de garde nationale du Faubourg Saint-Denis. Le 19 mars, devant l'hôtel de ville. Tout à coup, le clairon et le tambour se font entendre. Le bruit vient de la rue de Rivoli, du côté de la Bastille. On se remue, on s'agite. L'acier des baïonnettes reluit au soleil au-dessus des uniformes. On entend une sorte de brouhaha et de tumulte du côté d'où vient le tambour. Soudain, tous les képis se lèvent, les fusils s'agitent et une immense clameur « Vive la République !» sort de toutes les poitrines. Un bataillon de la garde nationale, le 130e, s'avance, musique et drapeau rouge en tête. Chaque événement, et il y en a tous les jours pendant la Commune, se déroule au son des clairons, des tambours et de la musique des bataillons de gardes nationaux. Quant au théâtre, si les subventionnés, théâtre français et opéra, sont fermés, d'autres sont ouverts, cherchant à assurer leur subsistance. Début avril, le petit journal s'étonne. Eh bien, on ne le croirait pas, quelques-unes de ces salles sont pleines tous les soirs. Le public elle-même aussi. On y retrouve les petits crevés et les blondes ardentes. On y revoit le titi gouailleur et les immortels marchands de pommes et de sucre d'orge, de lorgnettes et de programmes, ainsi que les ouvreuses en uniforme venant offrir aux dames l'incommode petit banc. Véritablement, nul ne se douterait que les événements d'un siècle se sont passés depuis 6 mois. Rien n'a vieilli, rien n'a changé. Le goût du public est le même. Le rire, dans la joie ou dans le malheur, est une nécessité pour nous. Du pain et des spectacles, demandaient les Romains. C'est à peu près la même chose aujourd'hui. Thank you. Au début de la Commune, les Parisiens sont en veine de divertissement, exactement comme ils le seraient en temps de paix. Pourtant, la période est particulièrement tourmentée. Et peu à peu, les théâtres ferment à nouveau. C'est un second siège de Paris que vivent les habitants. Mais à la place des Prussiens, ce sont cette fois ceux qu'ils appellent les Versaillais, puisque le gouvernement s'est retranché à Versailles, qui font tonner leurs canons aux portes de la ville. En avril, on travaille aux barricades. Selon Le National, celle qui est au coin de la place de la Concorde et de la rue de Rivoli va devenir un formidable rempart. Elle est en terre et le plan en a été tracé par un ingénieur. Celle qui s'élève aux alentours de l'hôtel de ville est faite avec des pavés amoncelés. On va la remblayer de terre. Même travail au Panthéon, dans la rue Saint-Jacques et le quartier Montrouge, etc., etc. Les nuits de Paris sont emplies de bruits de canonnades. On sait à coup sûr que les gardes nationaux se sont affrontés aux Versaillais, mais on ne sait jamais qui a eu l'avantage. Des bataillons passent sur les boulevards, jouant parfois une musique funèbre et parfois un hymne joyeux. C'est le printemps. Un jour du mois d'avril, vers 4 heures de l'après-midi, un bataillon de fédérés, le 63e, passe sur les boulevards avec des airs de vainqueurs. La musique joue la Marseillaise. Les baïonnettes sont ornées de lilas et de feuillages. Deux cantinières, le chasse-peau en bandoulière, saluent la foule en criant « Vive la République! Vive la Commune !» Fin avril 1871, on annonce qu'un concert doit avoir lieu le 6 mai dans le grand salon des Tuileries. Un grand concert à destination des Parisiens. C'est le docteur Roussel, directeur général des ambulances de la République, qui l'organise, au profit des victimes de la guerre. Le public va y venir nombreux, et pour ceux qui ont pris leur billet à l'avance, ils pourront visiter le palais dès la veille. Des artistes de tous les théâtres ont été réunis pour la circonstance. Ils viennent de la Comédie française, du théâtre italien, du concert parisien, du théâtre lyrique, des bouffes parisiens et du conservatoire.
Credo appena udendolo da te.
Le premier concert des Tuileries, le 6 mai 1871, est une réussite en termes d'affluence. 10 000 personnes. Une fête démocratique et communale, titre un journal. Entre les déclamations, des airs et des duos de Verdi et des pièces du violoniste d'Anclas. Mais la manifestation est victime de son succès. Il y a trop de monde, l'organisation est débordée. Une musique militaire dans une salle voisine couvre par intermittence les voix des acteurs qui disent des poésies. Pour faire entrer ceux qui n'avaient pas trouvé de place, on décide d'organiser une seconde manifestation, le 11 mai, pour laquelle, cette fois-ci, 300 musiciens seront réunis et joueront simultanément dans trois salles différentes. La Canaille, interprétée ici par Pierre Surgère, était donnée le 11 mai 1871 aux Tuileries par Rosalie Bordas, du Concert Parisien. Selon le journal officiel, elle a chanté avec sa verve accentuée et communicative et elle a été écrasée de bravos enthousiastes dans La Canaille, exigée et bissée avec frénésie. Cette chanson est en effet, précise le journal, remplie de philosophie populaire et Madame Bordas la sent en véritable artiste. Le 11 mai 1871 aux Tuileries, on a entendu parmi des pièces diverses Mademoiselle Agar dans Le Lion blessé de Victor Hugo, Monsieur Dambé dans un solo de violon, Madame Tesser dans des chansonnettes amusantes, Mademoiselle et Monsieur Caillot du théâtre lyrique dans l'air du Pardon de Ploermel et dans le duo du Maître de Chapelle.
Attendons la ritournelle, attendons la ritournelle, avant de dire ton solo, avant de dire ton solo.
Les détonations de Vanves et de Montrouge, écrit Catulle Mendès, arrivaient jusque-là. Quand le duo du maître de chapelle fut terminé, je me retournai vers la salle. L'applaudissement rauque et lointain des mitrailleuses de Neuilly, portées sur la brise de cette nuit de printemps par la fenêtre restée ouverte, vint se mêler aux applaudissements du public. Le lendemain, 12 mai, tandis qu'un troisième grand concert est annoncé aux Tuileries pour la semaine suivante, on apprend une nouvelle d'importance dans le paysage musical parisien, la mort de l'illustre chef de l'école de musique française contemporaine, Daniel François Esprit-Aubert, pilier de l'opéra et directeur du conservatoire, âgé de 88 ans. La mort d'Aubert va avoir des conséquences immédiates. Le conservatoire ne peut pas rester sans directeur. La commune nomme donc Salvador Daniel, compositeur et violoniste. Daniel, ayant vécu en Algérie, où il avait dirigé un orphéon, il s'est beaucoup intéressé à la musique arabe, sur laquelle il a publié des études et des arrangements de chants qu'il a fait entendre à Paris avant-guerre. Pour vivre, il joue dans un orchestre et corrige des épreuves musicales. Depuis le début de l'année scolaire, qui coïncide avec le début du siège de Paris, le conservatoire ayant été transformé en ambulance, les cours n'ont pas repris en présentiel. Les professeurs, du moins les présents, ont été priés de faire cours chez eux. Salvador Daniel commence donc par essayer de les réunir, avec peu de succès. Il est également chargé de mettre en application un décret sur les théâtres, décret qui vise à faire cesser le régime de l'exploitation par un directeur ou une société et y substituer, dans le plus bref délai, le régime de l'association. Pendant ce temps, à l'opéra, le directeur Émile Perrin a été destitué et on a nommé à sa place un certain Eugène Garnier, dont le premier soin est de réunir la troupe pour organiser un grand concert prévu le 22 mai au bénéfice des victimes de la guerre. Les répétitions commencent. Pendant que les artistes de l'opéra préparent leur concert du 22 mai, aux Tuileries, la journée du 18 mai voit la succession de trois grands concerts, toujours dans le but de démocratiser l'accès à la culture. Le soir, même chose au théâtre lyrique. À nouveau, se succèdent sur la scène des morceaux choisis de poètes célèbres et, en plus de la Marseillaise, quelques morceaux de musique propres à enflammer le public. Thank you. Le dimanche 21 mai 1871, après-midi, a lieu le quatrième concert organisé pour les victimes de la guerre. Un concert encore plus monumental que les trois précédents. On arrive cette fois-ci à un total de 1500 musiciens. Les organisateurs cherchent à la fois à divertir sainement le peuple de Paris, avec un programme suffisamment varié pour n'ennuyer personne, et à montrer de cette manière la force du régime. Un témoin raconte. À 2h30, sous les ombrages des Tuileries, il y avait un concert monstre au bénéfice des veuves et des orphelins de la commune. Les femmes en toilettes de printemps diapraient les allées vertes. À 200 mètres, sur la place de la Concorde, les obus versaillais jetaient leurs notes croassantes à travers la joie bruyante des cuivres et le souffle bienfaisant de Prairial. À la fin du concert, un officier d'état-major monta sur l'estrade du chef d'orchestre. « Citoyens, Monsieur Thiers avait promis d'entrer hier dans Paris. Monsieur Thiers n'est pas entré, il n'entrera pas. » À 7 heures, à deux portées de fusil, l'avant-garde des Versaillais pénétrait dans Paris. Le 21 mai 1871, en fin de journée, alors que prend fin le concert des Tuileries, les Versaillais entrent dans Paris. C'est le début de la semaine sanglante qui va achever dans l'horreur cette expérience révolutionnaire de 73 jours qui a marqué l'histoire. Parmi les fusillés, Salvador Daniel, éphémère directeur du conservatoire, et beaucoup d'autres qui resteront anonymes. Symbole sonore de la période, le temps des cerises a été dédié par son auteur Jean-Baptiste Clément à une jeune ambulancière rencontrée rue de la Fontaine au Roi le 28 mai. Ce jour-là, comme le dit Louise Michel, la commune était morte, ensevelissant avec elle des milliers de héros inconnus. Le temps des cerises, musique d'Antoine Renard par Les Lunésiens. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Et pour nous écrire, rien de plus simple, vous cliquez sur l'onglet Contact. Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Claude Niort pour le mixage, Philippe Petit pour la réalisation et Clément Diaz pour les recherches et le site.
À réécouter sur francemusique.fr.